De Théodore de Banville, Les Servantes. En province, beaucoup d'âmes délicates, douloureusement froissées dans leurs plus légitimes instincts, n'ont d'autre parti à prendre que celui de la résignation. Et c'est à celui-là que s'était arrêtée Madame Henriette Simonat après des luttes inutiles. Mariée à un homme d'esprit grossier, tyrannique, libertin, profondément égoïste et de plus avare, elle comprit bien vite qu'elle devait abandonner toute espérance. Et à 28 ans, merveilleusement belle et mère de deux enfants déjà grands, elle avait déjà fait son deuil de la vie. Les Simonat habitaient une campagne nommée les Bernadets, près d'Azay-sur-Cher, à 14 kilomètres de Tours. Mais en réalité, Madame Henriette était à 1000 lieues de cette ville, où son fils François était au lycée, sa fille Julie en pension, et où elle avait laissé ses amitiés d'enfance. Car son mari la tenait à la maison comme prisonnière, n'ayant ni les plaisirs de la compagnie, ni l'âpre jouissance de la solitude. En effet, Simonat, qui faisait valoir ses grandes propriétés, recevait assez fréquemment des marchands de vin, de grains, de bestiaux et des compagnons de chasse. Madame Henriette devait alors faire les honneurs de sa table à des hommes qui buvaient comme des sourds, mettaient leurs coudes sur la table et au dessert fumaient leurs pipes. Dans une si triste vie et privée de toute amitié, Madame Simonat ne trouva aucun recours, si ce n'est dans le dévouement de sa femme de chambre, Rosalie Hulin, une grande fille blonde, alerte, stylée et pleine d'attention, qui savait soigner et choyer sa dame, lui éviter toutes les besognes ennuyeuses, lui tenir compagnie, lui faire la lecture, être au besoin pour son service une repasseuse, une couturière, une modiste et une dentelière de premier ordre. D'une très faible santé, minée encore par l'incurable ennui, Madame Henriette était en proie à des crises fréquentes, pendant lesquelles elle perdait toute force et avait besoin de 1000 soins délicats. Elle trouvait alors chez Rosalie l'affection la plus affectueuse, la plus tendre, la plus discrète. Si quelque faute avait été commise qui devait exciter la brutale colère de Simonat, la servante n'hésitait pas à s'en charger, toujours prête à affronter l'orage, à suppléer sa maîtresse en toutes choses, et même, comme on le verra, en trop de choses. Mais telles furent la patience, la sollicitude, l'ingénieuse bonté de cette aimable fille, qui à chaque vacances allait chercher les enfants à Tours, les y reconduisait et veillait sur eux, d'ailleurs toujours prête à partir si leur mère était tourmentée d'un pressentiment ou de la moindre inquiétude. Elle sut si bien se rendre indispensable, tout en restant sans nul oubli à son humble place de servante, que Madame Henriette Simonat lui pardonna dans son âme lorsqu'elle apprit enfin que Rosalie était la maîtresse de son mari. D'ailleurs, les deux femmes n'abordèrent jamais dans sa réalité cette question brûlante, mais tout en restant dans les allusions et les sous-entendus, la femme de chambre fit très bien comprendre à sa maîtresse que le mal eût été beaucoup plus grand si une autre qu'elle eût pris de l'influence sur Simonat, trop égoïste et sensuelle pour n'être pas gouvernée par ses désirs. Madame Henriette fut persuadée avec raison qu'en tout état de cause, Rosalie prendrait son intérêt, celui de ses enfants, et s'il ne se consola pas de se voir amèrement délaissée, elle dut garder encore à son indigne rival quelque chose comme une reconnaissance triste et désolée. Cependant, tant de déceptions, l'incurable regret d'une vie manquée et sans issue, ne tardèrent pas à détruire les dernières forces de Madame Simonat. Usée et à bout de résistance, sans maladie apparente, elle s'alita bientôt pour mourir, et mourut en effet, tenant dans ses bras François et Julie, que Rosalie était allée chercher à Tours. Tout en les couvrant de ses derniers baisers, la malheureuse mère les confiait, les recommandait du regard à sa servante, à qui elle avait crédienement pardonné. De nombreux parents vinrent assister aux obsèques de Madame Henriette, et au retour du cimetière, Simona les régala d'un plantureux festin où furent mangés des cochons de l'air rôtis, des pâtés de venaison et des carpes de la Loire, et où les vins de Vouvray coulèrent à plein bord. Le soir même, chacun partit de son côté, et Rosalie reconduisit les enfants à Tours, où elle coucha, et d'où elle ne revint que le lendemain matin. Dès qu'il fut seul, Simona se débarrassa tout de suite de ses regrets, et cela d'autant plus facilement qu'il n'en avait éprouvé aucun. Lorsque Rosalie rentra à la maison, elle le trouva gai, le sourire alerte, et se frottant les mains. « Donnez-moi le trousseau de clés, dit-elle, toutes les clés. » Et en même temps, elle regardait complaisamment la cour du domaine où rentraient de grands bœufs, les cimes des grands arbres du jardin qu'on voyait par-dessus le mur, les chariots, les charrues, les volailles picorant dans l'herbe, les dindons aux jabots rouges, les chiens de chasse aux taches fauves, et elle se disait que tout cela était à elle. Simona rendit le trousseau de clés à Rosalie, et la regardant humblement avec un air de chien battu. « Tu sais, dit-il, ce que je t'ai toujours promis, c'est que je t'épouserai si ma femme mourait. Eh bien, je suis prêt, quand tu voudras, à tenir ma promesse. » « À d'autres, dit la belle Rosalie Hulin, je ne veux pas donner une belle-mère au cher petit, mais j'aurai soin que sans moi vous ne leur en donniez pas une. Quant à faire ma pelote, croyez que je n'y manquerai pas, et je n'aurai pas besoin d'être votre femme pour mettre ce qu'il me plaira dans ma bourse. Enfin, je n'ai pas envie de souffrir ce qu'elle a souffert, madame. Ou je me trompe bien, ou vous mourrez dans la peau d'un homme qui chiffonne la belle femme de chambre, mais la femme de chambre, s'il vous plaît, ce sera moi. Et maintenant, allez faire votre tour, et pas de paroles inutiles. » Rosalie tendit sa joue avec un air auquel Simona ne l'avait pas, savait pas résister, et il partit après avoir mis son baiser de rustre sur cette belle chair fraîche. Dès que la servante fut seule, elle ouvrit la porte de la cuisine et, s'adressant à une fillette qui écurait un chaudron de cuivre jaune, « Va, dit-elle, me chercher la Suzanne qui garde ses vaches dans le pré et qu'elle vienne tout de suite. » Quelques minutes plus tard, la Suzanne entrait, une grande jolie fille, mince, aux bizarres yeux verts, avec de lourds cheveux blonds, une peau aussi blonde que ses cheveux, et des lèvres d'un rose vif extraordinairement spirituel. « Ma fille, lui dit Rosalie, tu es engagée jusqu'à la Toussaint. C'est 50 écus qu'on te doit, les voici. Et tu vas, s'il vous plaît, tourner les talons. » « J'entends bien, madame Rosalie, dit la vachère après un assez long silence. Seulement, je vais vous dire, j'aime autant rester ici. » « Allons, dit la femme de chambre, je serais une mauvaise ménagère si je n'avais pas fait des trous de vrille à toutes les portes. Et plus de 20 fois, avec les yeux que voilà, je t'ai vue, toute dépenaillée, assise sur le lit de monsieur, qui fourrait ses doigts dans tes cheveux jaunes. « Ça se peut bien, dit Suzanne, dont la bouche retroussée en arc eut un malicieux sourire. Moi, j'ai pas eu besoin de faire des trous aux portes pour savoir que le laboureur Pierre Mabru est de vos amis. C'est un beau garçon, aux larges épaules, chevelu comme un chêne, et qui sait gouverner les filles aussi bien que ses bœufs et ses chevaux. Moi aussi, je vous ai vu plus de 20 fois avec lui, dans sa chambre de l'écurie, dans le grenier à foin, et dans le petit bois qui est au bout du pré. Car, mademoiselle, je marche pieds nus, on ne m'entend pas venir. Et je fais pas plus de bruit qu'une souris. Eh, dit Rosalie Hulin, mais qui te croira? C'est pas Monsieur Simona, sans doute. Et le malheur, dit Suzanne, levant ses grands yeux aux longs cils dorés, c'est que vous et moi, on nous a envoyés à l'école. Toutes les deux, nous savons lire et écrire, mais moi, je n'écris pas, je lis seulement. Et comme un Bruxelles est allé pour l'héritage de ses parents, et qu'il a passé un mois à Larçay, chez son frère le meunier. Vous vous êtes trop ennuyé après lui, vous lui écriviez, pour peu tous les jours que Dieu fait. Et moi j'ai toutes les lettres. Ma brume les a cédées de bonne amitié, et elles sont dans un lieu sûr où vous ne les trouverez pas. Et M. Cibollet les recevra tout de suite si on touchait un cheveu de ma tête. Ah, dit Rosalie, grinçant des dents, tu es aussi la maîtresse de Pierre Mabru. Après vous, mademoiselle, dit humblement Suzanne. Ah, je vois bien que vous me souhaitez loin d'ici et que vous allez m'offrir quelques billets de 1 000 francs. Mais au contraire, mon idée est de rester. Je pense que M. Simonat a assez de méchanceté, de bêtises et d'argent pour nous deux. Et que Pierre Mabru a aussi assez de jeunesse et d'amour pour nous deux. Vivons dans une bonne intelligence et rentrons nos griffes. Si vous voulez bien me supporter, mademoiselle, vous me trouverez prête à vous obéir et à vous servir en toute occasion, à cacher vos fautes si vous en faites, et à suivre de bon mieux vos commandements. Mais je ne veux pas m'en aller d'ici, et je suis trop attachée à la maison. C'est bon, dit Rosalie Hulin. Je tâcherai d'arranger cela, j'y réfléchirai. Allez, en attendant, va garder tes vaches. Arranger ça, et comment? La servante se brisait la tête à y réfléchir, mais la vie s'est tout dénouée avec ses combinaisons mystérieuses. Aux suivantes vacances de Pâques, pendant les quelques jours que la petite Julie Simonat était venue passer chez son père, avec son frère François, elle fut attaquée de la petite vérole. La dévouée Rosalie s'installa à son chevet, la soigna comme une mère, ne la quitta ni jour ni nuit et la guérit enfin. Mais elle-même gagna la maladie de l'enfant et mourut au milieu de longues et cruelles souffrances. Monsieur Simonat, qui en sa qualité de tyran a le goût invétéré du mariage, a épousé un an après sa voisine, la riche Madame Dufourcq, dont il convoitait les vastes propriétés, et naturellement c'est Suzanne qui est devenue la belle femme de chambre. Très entendue et très fine, elle a su, en suivant les traditions de sa devancière, se dévouer parfaitement à sa maîtresse et lui éviter de nombreux ennuis. Comme Rosalie aussi, elle protège et défend de son mieux les enfants Simonat. Elle maintient le bon ordre et la propreté dans la maison, et tout doucement, sans faire semblant de rien, elle est devenue riche. Cette spirituelle personne, qui se propose d'aller plus tard à Paris, a très bien su garder son argent et n'a pas commis la faute d'épouser Pierre Mabru. Elle se sait très étrangement jolie et très désirable. Mais elle n'ignore pas du tout qu'une belle femme vaut une autre belle femme, et elle surveille attentivement ses vachères.